en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
La démocratie, tel est le thème de l'année 2010 proposé aux membres de l'Académie des sciences morales et politiques sous la présidence de Jean Ménard. Pour ouvrir cette série de communications, Jean Béchler, membre de l'Académie, historien, sociologue et penseur de la politique, invite à réfléchir sur la définition de la démocratie, sa place dans l'histoire et sa résurgence en Europe. Cette communication a été prononcée en séance le lundi 11 janvier 2010. Écoutez-la.
La communication que je vais vous infliger peut être l'exposition sous forme de concentré d'une thèse extrêmement précise que j'ai développée tout au long de ce livre dont vous rappeliez le titre, « Démocratie », il y a déjà 25 ans, et il est paru en effet en 1985. La thèse repose sur quelques propositions liées que je crois pouvoir amener à 5. Premièrement, la démocratie, et non pas une ou telle démocratie, est un régime politique parmi d'autres. Deuxièmement, je la considère comme le régime naturel de l'espèce au sens où il est le plus approprié à la nature et à la condition humaine si on les définit comme libres et faillibles. Troisièmement, pour que la nature puisse s'exprimer, certaines conditions de possibilité sont requises. Et j'entends précisément en un sens technique par origine la réunion des conditions de possibilité d'un phénomène, qu'il s'agisse de la démocratie, du capitalisme ou de quoi que ce soit d'autre. Et par conséquent, je ne confonds à aucun moment origine avec genèse, mise en place, développement, installation et ainsi de suite. Troisièmement, ces conditions de possibilité sont loin d'être toujours et partout réunies. En effet, cinquièmement, les données empiriques révèlent d'abord une inclination démocratique dominante dans le monde primitif, et d'autant plus dominante que ce monde primitif est plus archaïque. Deuxièmement, les données constatent une quasi-disparition de la démocratie en conséquence d'un gigantesque mouvement de transformation des sociétés humaines appelé néolithisation. La démocratie disparaît, sauf à l'occasion des cités villageoises et urbaines. Et troisièmement, une redécouverte de la démocratie s'opère en Europe moderne par l'effet de circonstances contingentes et improbables. Alors, je vais exposer cette thèse et essayer de la démontrer en m'en tenant aux lignes de fait de la démonstration de la thèse, puisque vous comprendrez aisément que je ne peux guère aller au-delà. Je ne prétends par conséquent pas vous persuader de la véridicité de ce que je vais énoncer, mais j'aimerais faire naître en vous le sentiment de sa véracité plausible. Et je le ferai en faisant passer ma démonstration par trois étapes qui me paraissent logiquement liées. Qu'est-ce que la démocratie ? Ensuite, la place de la démocratie dans l'histoire universelle. Et enfin, troisièmement, l'exception européenne. Commençons par qu'est-ce que la démocratie ? Je vais procéder, je ne peux pas faire autrement, par affirmations que je vous assène sans essayer de les justifier. Si des questions s'y rapportent, je me ferai un devoir d'y répondre. Je procède d'une manière ordonnée selon l'ordre des raisons, comme disait l'autre. Un régime politique est un ensemble institué de dispositifs et de procédures appropriées à la fin du politique, c'est-à-dire, dans mon interprétation, à la pacification des conflits humains par l'entremise de la justice, en prenant justice au sens aristotélicien de justice générale et de justice particulière. Et ce, au sein de ce que j'appelle une politie par un néologisme transparent, c'est-à-dire un cercle social défini comme, d'une part, espace de pacification tendancielle vers l'intérieur et, d'autre part, comme espace de guerre virtuelle vers l'extérieur, où la politie opère comme un acteur collectif sur un espace que je propose d'appeler une transpolitie et non pas un espace international, ce qu'appliqué au monde tribal international fait extrêmement bizarre. C'est un régime parmi d'autres, c'est mon deuxième point, ce qui exige que l'on construise une typologie des régimes politiques, et la typologie est un genre intellectuel qui a ses lettres de noblesse et qui doit obéir à deux règles fondamentales, la simplicité et la cohérence, bien entendu, et l'exhaustivité. Il faut que tout ce que l'on prétend étudier entre dans cette typologie. Alors, il y a très longtemps, une trentaine d'années au moins, j'avais adopté comme principe d'une typologie des régimes politiques le concept de pouvoir, en partant de l'hypothèse raisonnable que le pouvoir est au cœur du politique en tant qu'il est, sinon le moyen de la fin du politique, au moins un moyen décisif. Et en partant de là, il devait être possible de saisir d'une manière efficace les faits historiques. Alors, qu'est-ce que le pouvoir ? C'est la capacité actuelle d'imposer sa volonté à d'autres volontés. Et par conséquent, le ressort du pouvoir, c'est l'obéissance, ou disons le lieu stratégique de toute relation de pouvoir est l'obéissance de ceux qui acceptent de se plier à l'énoncé d'une volonté qui n'est pas la leur. Or, il y a trois ressorts et trois seulement de l'obéissance, la peur, l'admiration ou le respect, toutes les nuances, si vous voulez, du respect, et enfin le calcul. Et par conséquent, on peut en déduire trois relations fondamentales de pouvoir. Je me situe à un niveau de très haute abstraction conceptuelle, mais le concept est au cœur du réel. Une première relation que l'on peut convenir d'appeler les mots n'importe peu, mais il faut des mots, la puissance, où l'obéissance repose sur l'exercice par un autre de la force, c'est-à-dire de la violence et de la ruse. Une deuxième relation doit s'appeler l'autorité, au sens presque étymologique du terme, augere, auctoritas, ce qui place au-dessus, si vous voulez, où l'obéissance résulte du respect et de l'admiration devant un charisme concédé par un principe supérieur. Et enfin, j'appelle direction l'obéissance qui résulte d'un calcul intéressé à la réussite d'une entreprise collective. De là, par une conséquence logique, un régime politique devient un mixte ou un mélange des trois ressorts de l'obéissance et donc des trois relations de pouvoir fondamentales, mais l'on montre qu'il est impossible de les maximiser simultanément et par conséquent, on distingue trois régimes fondamentaux en fonction de l'accent mis sur telle ou telle relation de pouvoir, sur tel ou tel ressort. Alors, je préférerais, mais je ne me lancerai pas dans ce développement, une figuration plus conforme aux faits, à savoir un espace à trois dimensions, dimension puissance, direction, dimension autorité. Chaque régime concret, historique, se trouvant quelque part à l'intérieur de cet espace, plus près de la puissance, plus près, etc., de manière à permettre toutes les nuances, toutes les transitions et toutes les situations limites, voire marginales. Alors, les trois régimes fondamentaux, il faut bien les nommer. Il est facile de nommer autocratie. Tout régime conquis, exercé et conservé par la violence et la ruse, un régime qui se différencie, et là on retrouve en partie du moins la typologie classique, en régime despotique au sens grec du terme, où le puissant considère la politique comme sa propriété personnelle et la gère, si vous voulez, en conséquence, à la rigueur il peut bien la gérer, mais il le fait sans consulter personne. En tyrannie, au sens classique du terme, où le tyran a pour objectif fondamental de satisfaire sa ou ses passions. En régime que l'on appelle autoritaire, malheureusement très très mal nommé, mais je ne vois pas la possibilité de changer ici les habitudes. Et enfin, en idéocratie, j'emprunte le mot à Raymond Aron, en entendant par là tout régime autocratique qui essaye de réaliser par la violence et la ruse une utopie. Deuxième régime fondamental, que j'appelle, je n'ai pas inventé le mot, hiérocratie, où le pouvoir est légitimé par un principe supérieur qui est source du pouvoir, qu'il délègue à un vicaire reconnu comme tel par les obéissants, Autrement dit, c'est un jeu à trois personnages fondamentaux. Il est différenciable, ou je le différencie, en deux sous-types. La hiérocratie tempérée, c'est-à-dire celle où le pouvoir est contre-buté par des contre-pouvoirs autonomes au sein de la société. Et en hiérocratie absolue, où la confusion est tendancielle entre les élites sociales et l'appareil du pouvoir, surtout dans ses strates supérieures. Et enfin, je ne vois pas le moyen de nommer autrement que démocratie, celui où tout pouvoir est délégué d'en bas au service d'entreprises collectives. Ce régime est différenciable en trois sous-types fondamentaux, un sous-type aristocratique, un deuxième oligarchique au sens grec du terme, c'est-à-dire les riches sont au pouvoir, et enfin en sous-type démocratique au sens étroit du terme, en fonction du critère spécifiant les délégants. Quel est le pool, quel est le critère qui permet de définir un pool de délégants du pouvoir dans une aristocratie? Ce sont les chefs de lignée ou de lignage qui jouissent d'une autonomie par rapport au pouvoir central, une autonomie en termes de pouvoir, de prestige et de richesse. L'oligarchie est définie très précisément par le fait que les délégants sont les riches. Alors, qu'est-ce que les riches? Parfois, il y a des variations possibles. Et enfin, démocratie, ce sont tous les habitants d'une polity qui sont citoyens, ce qui pose un problème à peu près insoluble. Que veut dire tous les habitants? Les nouveau-nés sont-ils délégants? Non, c'est un problème extrêmement difficile qui se pose à toute démocratie. Conséquence de cette typologie, la démocratie est un régime politique où le pouvoir est détenu d'origine par les acteurs individuels ou collectifs. Il y a des démocraties où les acteurs sont des groupes. Donc les acteurs individuels ou collectifs d'une politique qui le délèguent à des compétents putatifs pour réaliser le bien commun, c'est-à-dire la paix, la justice, la prospérité, ou bien la définition de règles du jeu, la punition des tricheurs et la sécurité extérieure. Il est facile de recomposer tout cela dans une architectonique cohérente. Ce bien commun, ce sont tout simplement les conditions du bien-vivre, du eudzen aristotélicien, c'est-à-dire, pour parler comme Renan, le roman du bonheur que chacun se construit à son propre usage. Alors de là, de ce point de départ extrêmement simple, je ne vois pas la possibilité de parvenir à un point d'origine conceptuel plus simple et plus exhaustif, eh bien, je peux déduire tous les caractères d'une démocratie idéale, c'est-à-dire d'une démocratie fidèle à son concept, ou bien d'un modèle de démocratie. Il suffit de faire évoluer tel ou tel paramètre. Alors, je ne me lancerai pas dans l'illustration de ce que je viens d'affirmer, au-delà de quelques propositions que je vous soumets en vrac. J'en ai retenu 5 ou 6 que je vous laisserai méditer. On peut démontrer, je crois, au sens très fort du terme, presque démonstration logique en tout cas, sinon mathématique, que dans un régime défini, la direction et la relation de pouvoir qui les régit toutes, partout où elles s'exercent. Mais il y a toujours une réponse, des solutions qui sont conformes aux principes fondateurs de ce régime. On montre que l'autorité doit être conférée à la loi non écrite et à ses expressions positives, qui peut être écrite ou coutumière, c'est une distinction secondaire. Et enfin, la puissance doit s'appliquer aux tricheurs intérieurs et aux ennemis extérieurs. Autrement dit, une démocratie ne peut pas être purement de direction. Elle inclut forcément les deux autres relations de pouvoir. Deuxièmement, et c'est fort important, le régime est forcément mixte. Et je retrouve ici Aristote, Cicéron et saint Thomas d'Aquin. En effet, les citoyens sont les délégants, c'est la dimension démocratique. Le pouvoir est délégué en principe à des compétents, c'est la dimension aristocratique au sens étymologique du terme. Et enfin, les dirigeants sont mis dans le cas de pouvoir diriger, décider, c'est la dimension monarchique. Il vaut mieux éviter ce vocabulaire hérité de l'Antiquité parce qu'il conduit sur des pistes qui risquent de mener à des confusions conceptuelles dommageables ou pécamineuses. Donc je préfère les éviter, mais le régime est mixte. Troisièmement, toute délégation de pouvoir ne peut être qu'à titre temporaire, circonscrit et réversible. Quatrièmement, toutes les activités sont distribuées nécessairement en trois sphères. L'une que l'on peut convenir d'appeler le public, mais ce n'est pas indispensable, mais il faut des mots, est consacrée au bien commun ou aux intérêts communs, c'est-à-dire ceux qui entrent nécessairement dans la définition de l'intérêt de chacun. Chacun a intérêt à ce que la sécurité extérieure soit assurée. Chacun a intérêt à ce que des règles du jeu soient définies. Chacun a intérêt à ce que les tricheurs, ceux qui ne les respectent pas, soient punis. Deuxième sphère, que l'on peut convenir d'appeler le privé, est occupée à la réalisation des intérêts particuliers. On peut montrer que la manière la plus efficace d'assurer ces intérêts particuliers, de les laisser négocier sur des espaces publics ouverts, soustraits à la violence et donc soumis à la loi, est ce qui les conduit, par négociation successive, à la définition d'intérêts moyens. Et enfin, il y a une sphère que l'on peut convenir d'appeler l'intime, et qui est accaparé par le soin et le souci du bien-vivre, auquel chacun, individuellement ou en petit groupe, peut se consacrer. Autre déduction que l'on peut conduire, la justice distributive exige en démocratie que le pouvoir aille à la compétence, et donc tout pouvoir exercé sans ce critère est nul et non est illégitime. Le prestige doit aller au mérite et la richesse à la contribution à la production de la richesse. Et on peut montrer par quel mécanisme il est possible de respecter ce principe. Conséquence, la démocratie admet les inégalités à condition qu'elles soient justes, qu'elles aillent à la compétence, au prestige et à la contribution à la production des richesses. Elle tient compte de l'équité, au sens aristélicien du terme, tout en posant en principe fondateur et absolu l'identité des citoyens. Autrement dit, il ne faut pas confondre, comme on le fait toujours, égalité et identité. Les Spartiates, il faut toujours remonter aux Grecs, c'est très instructif, les Spartiates ne se définissaient pas comme isoi, égaux, mais comme homoioi, identique. On peut être identique tout en étant inégal. Le roi de France était premier gentilhomme en son royaume. Il était identique à tout autre aristocrate, mais il était évidemment inégal par rapport à eux. C'est fort important. Hegel déjà soulignait le risque qu'il y avait à confondre égalité et identité. L'identité démocratique, c'est le principe d'identité A égale A. C'est un délégant égale un délégant. Point. Tout le reste relève d'une problématique différente. Autre consécution, tout groupe, y compris la politique, dénie à quiconque le droit d'entrer, mais accorde le droit de solliciter la faveur d'entrer dans le groupe, d'un côté, et de l'autre, garantit le droit de ne pas entrer et de sortir. Par exemple, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est une déduction logique, mécanique, si j'ose dire, du principe fondateur. Autre conséquence, la démocratie ne reconnaît que des droits d'eux, c'est-à-dire des libertés, qui sont tout simplement des contenus analytiques du concept de citoyen. Et par contre, elle tient pour des corruptions, voire pour des perversions, tout ce qui s'exprime en droit à et en droit sur. Ce sont des déviations. Et enfin, une démocratie modèle marche normalement mal. On peut montrer que ça doit mal marcher, donc il est normal que ça marche mal, mais simultanément, elle est indéfiniment réformable et perfectible, ce qui lui permet de demeurer insubvertible de l'intérieur. Ce sont des déductions que je qualifierais de positives. Qu'est-ce qui est de la nature de ce régime défini par, dans le cadre de cette typologie, on en déduit par, en creux, si vous voulez, tout un catalogue de ce que j'appellerais les hérésies démocratiques, c'est-à-dire des mésinterprétations qui courent tous les livres, toutes les revues, toutes les conversations, enfin toutes les... qui est notre pain quotidien. Je ne me lancerai pas dans cette analyse des hérésies, mais je suppose qu'en cours d'année, nous en verrons émerger d'innombrables. J'en arrive ainsi à mon deuxième point, qui porte sur les avatars historiques de la démocratie ainsi définis. Alors, il faut définir d'abord le point de vue adopté. C'est celui de l'histoire universelle de l'humanité en tant que telle, et non pas de tel segment, de tel quartier, de tel épisode. à ce point de vue, l'échelle de temps à retenir est le millénaire. Alors, sur quelle documentation fonder une telle enquête? Eh bien, on a une documentation historique sur, au grand, grand maximum, et dans le meilleur des cas, 5 millénaires, les 5 derniers, en étant très généreux. Au-delà, la seule possibilité est d'abord l'ethnographie, en particulier africaine. L'Afrique au sud du Sahara est un véritable laboratoire d'expériences politiques telles qu'on peut le reconstruire pour le XIXe siècle et, disons, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est le seul appui que l'on a pour remonter au-delà, si vous voulez, à condition de le faire avec la plus grande prudence et en s'en tenant aux propositions les plus générales. Alors, si, une fois parvenu à ce point de vue, l'on adopte comme grille de lecture la typologie des régimes politiques que j'ai esquissée à l'instant, eh bien, on voit apparaître un tableau parfaitement clair, je dirais même limpide. Il est fixe pendant des dizaines de millénaires, et puis on constate qu'il s'anime d'un mouvement indéfiniment accéléré à partir de la fin de la dernière glaciation, il y a 10 à 12 000 ans. Alors, ça donne à peu près ceci, résumé à l'essentiel. Dans le monde primitif, des prédateurs, c'est-à-dire des cueilleurs et des chasseurs, réunis soit en bandes, le modèle serait ici les Bushmen du Kalahari, les pygmées de la forêt congolaise, voire les Esquimaux du nord canadien, ou bien réunis en bandes matinées de tribus, où le modèle est ici, il est limpide, ce sont les aborigènes australiens. Bon, alors dans ce cadre-là, le régime exclusif est la démocratie pure, et d'autant plus pure que la cueillette l'emporte davantage sur la chasse au gros gibier. Tous les principes que l'on peut déduire du concept de démocratie tel que je l'ai construit se retrouvent dans ces sociétés. Bien entendu, vous n'avez pas de conseil constitutionnel, vous n'avez pas de président, etc. Mais, etc., etc. Mais tout y est, du moins. Tous les problèmes posés en termes de pouvoir reçoivent une solution en termes de direction. Voilà. Avec la néolithisation, on constate une hiérocratisation de la démocratie suivant deux modèles fondamentaux. Le modèle le plus courant, partout, est celui du clan royal. Il domine chez les agriculteurs purs. De quoi s'agit-il? Eh bien, un même clan charismatique, c'est-à-dire investi, enfin, d'un droit au pouvoir, si vous voulez, par un principe supérieur et reconnu comme tel. Donc, un clan charismatique procure les titulaires de toutes les positions de pouvoir à tous les niveaux. Et puis, vous avez un deuxième modèle que j'appelle de la pyramide, dominant chez les pasteurs-agriculteurs, où l'élevage joue un rôle important, où la société est composée d'une pluralité de pyramides, chacune dirigée par une lignée charismatique. Donc, il n'y a rien au-dessus, si vous voulez, ou bien, s'il y a quelque chose au-dessus, c'est une pyramide qui est un peu plus élevée que les autres, pour l'essentiel, pour des contraintes d'arbitrage. Chacun de ces deux modèles favorise également ce que j'ai appelé la hiérocratie tempérée. En effet, dans le modèle du clan royal, le pouvoir politique est contributé par la structure lignagère de la société, et par la dispersion de l'ensemble en super-chefferies, en chefferies et en villages. Alors que les pyramides sont par elles-mêmes et du fait de leur pluralité des contre-pouvoirs les unes pour les autres. Alors cette évolution du premier stade au deuxième, disons de la démocratie à la hiérocratie tempérée, est une évolution lente, progressive, imperceptible, du moins à échelle humaine. Personne ne l'a, à proprement parler, vécu, c'est rétrospectivement qu'on peut la reconstruire. Elle s'est poursuivie sur 5 à 7 000 ans, variable donc selon les continents, avec comme moteur principal tout ce que l'on met sous l'étiquette collective de néolithisation, le passage à la production, la sédentarisation, la stratification sociale, le croît démographique, la tribalisation, l'élargissement des sociétés, donc des phénomènes extraordinairement complexes pour lesquels on n'a pas déjà une théorie parfaitement unifiée, même s'il y a plusieurs tentatives plus ou moins convaincantes. Le mouvement, enfin, est peu affecté par la guerre. La guerre est née. Elle naît avec le passage à la production et au stockage. Pourquoi cela ? Bien parce que les facteurs de la tempérance du régime cantonnent la guerre dans le sport musclé, si vous voulez, le sport risqué, très hautement ritualisé, dans le raid de pillage, dans la piraterie, et surtout préviennent les conquêtes. Elles ne sont pas rentables et surtout elles ne sont pas contrôlables. Donc la guerre existe, elle peut avoir des conséquences, mais elle n'a pas de conséquences sur le mouvement, si vous voulez, de tel régime politique à un autre. Alors à la fin du mouvement, donc au bout de 5 à 7 000 ans, il y a 5 000 ans pour simplifier, la démocratie a partout disparu, à l'exception des cités villageoises que l'on trouve sur tous les continents. J'en ai trouvé des exemples vraiment partout. Qu'est-ce qu'une cité villageoise ? Bien, d'abord, c'est un faciès de la tribu, caractérisé par la transformation de villages minuscules, réunis en grappes, leur transformation en polities souveraines, où le régime dominant, pour ne pas dire exclusif, je n'ai rencontré aucune exception, est l'oligarchie. C'est-à-dire, ce sont les plus riches en termes de terres, pour l'essentiel, ou de prestige, qui sont à la source des délégations de pouvoir. C'est ça, l'oligarchie. On peut montrer pourquoi cette règle est quasiment une loi. Cela arrange tout le monde, pour simplifier, et c'est remarquablement efficace. Enfin, troisième étape, il y a 4 à 5 000 ans, ce n'est pas à l'année près, hein, en Chine, en Inde, en Asie antérieure et en Amérique, une nouvelle étape commence, dont le point d'aboutissement sera l'établissement d'empires continentaux. Je peux donner des dates, moins 539 en Asie antérieure, c'est le premier à arriver au but, si j'ose dire, vers moins 250 en Inde, ce sont les Mauryas avec Ashoka, moins 221 en Chine et aux alentours de 1450 au Pérou, donc il y a un retard d'environ 2000 ans en termes évolutifs, avec Pachacutec, l'Inca que vous connaissez tous. Alors, ce dernier mouvement est animé par la guerre, c'est en effet son moteur à peu près exclusif, une guerre devenue guerre de conquête, à mesure que les polities sont mieux circonscrites, et surtout que les transpolities adoptent des configurations à 2, 3 ou 4, dont on peut montrer, par une analyse en termes de jeu, qu'elles sont intrinsèquement instables et nécessairement promises à l'unification politique ultime. Alors, ça prend 4 à 5 000 ans, ça n'est pas rapide, sauf tout à la fin où, à l'échelle des siècles, le mouvement s'accélère. Dans ces polities énormes, gigantesques, continentales, le régime exclusif est la hiérocratie absolue. En effet, les contre-pouvoirs ont disparu par élimination de l'aristocratie là où elle existait. C'est le cas de l'Inde, c'est le cas de l'Asie antérieure, du moins dans l'Empire achéménide. Ou bien ces phénomènes tout à fait différents par décomposition du système lignagé que l'on observe en Asie antérieure, en Amérinde et en Afrique, parce qu'il y a des mouvements, mais qui n'ont pas abouti en Afrique également. Par exemple, une méthode très originale est le monopole royal des femmes bonnes à marier, adopté dans toute une série de royaumes africains et par les Incas, ce qui permet de brouiller en très peu de générations le système lignagé, donc de dissoudre les contre-pouvoirs installés depuis des millénaires dans la société. Ou bien, dernière possibilité, la réduction des clans princiers au rôle de pourvoyeurs de fonctionnaires impériaux. C'est le cas de la Chine, du moins, en simplifiant à l'extrême. Dans ce cadre, eh bien, la démocratie et la hiérocratie tempérée sont réduites au statut de vestiges interstitiels, de curiosités ethnographiques, à l'exception la plus notable des cités urbaines, non plus villageoises mais urbaines, de Méditerranée, dont les régimes sont très purement soit aristocratiques, c'est le cas chez les Grecs, les Étrusques et les Italiotes, soit très purement oligarchiques chez les Phéniciens et les Carthaginois. Autrement dit, et pour prévenir toute objection, les Grecs n'ont jamais inventé la démocratie, tout au plus l'ont-ils redécouverte. Et prendre comme exemple Athènes est très très abusif, puisque c'est celle qui marchait le plus mal, et donc dont on a parlé le plus, et dont les citoyens se sont préoccupés de son salut, de même que Florence, marchant mal, a donné lieu à une littérature que Venise n'a jamais produite, puisque ça marchait très bien. Enfin, mon dernier point, la résurgence démocratique en Europe. vaste sujet, Monsieur le Président, mais je crois que les lignes directrices d'une explication éventuellement plausible, je suis prudent, peuvent être repérées et précisées en s'en tenant fermement et exclusivement à la catégorie origine, telle que je l'ai définie, à savoir réunion des conditions de possibilité de développement. Trois moments sont à considérer, logiquement. Quelles sont les conditions de possibilité de la démocratie en général? Deuxièmement, la réunion des conditions en Europe. Et troisièmement, l'actualisation de la démocratie à l'occasion de cette réunion. Alors, les conditions de possibilité, comment les repérer? Eh bien, en combinant, selon la bonne méthode scientifique, le raisonnement, c'est-à-dire des hypothèses dont on déduit des propositions. Quelle est la question? Bien, une question kantienne. À quelles conditions un régime politique de liberté faillible, si vous voulez, peut-il se mettre en place et assurer d'une manière convenable les fins du politique, la paix par la justice? Et deuxièmement, les expériences démocratiques du passé confirment-elles ces déductions? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ceci que je vous résume en 5 propositions générales pour lesquelles, je répète, on peut produire tout un corpus, si vous voulez, de faits. Première condition, une transpolitie réfractaire à l'unification politique. Parce que toute transpolitie unifiée politiquement donne lieu à des développements hiérocratiques dans le sens absolu. Quelles sont ici les données historiques et ethnographiques? Les bandes, les tribus et les cités. Vérifie cette proposition, sans aucune exception. Deuxième proposition générale, il faut des polities stables à l'échelle des siècles, pas des millénaires, des siècles. Pourquoi? Bien parce que les expériences démocratiques demandent du temps, puisque ça marche mal. Et donc, il faut que ça se mette en place. Les institutions ne tombent pas du ciel. Il faut qu'elles prennent, si vous voulez, dans une société. Quelles sont ici les données empiriques? Les mêmes, dans les bandes, les tribus et les cités. Troisièmement, il faut que la société, ce que j'ai appelé le privé tout à l'heure, soit structurée par des centres autonomes de décision, c'est-à-dire que des centres, des ensembles capables de gérer les affaires humaines concernant des particuliers, si vous voulez, sans intervention du pouvoir politique ou sans éprouver le besoin d'y référer. Quelles sont les données? Les mêmes dans les bandes, les tribus et les cités. Quatrièmement, c'est une condition non plus générale, mais particulière. Si la démocratie n'est pas originelle, c'est-à-dire si elle doit succéder ou si elle succède à une non-démocratie, en l'occurrence, une hiérocratie, il faut que celle-ci soit tempérée, c'est-à-dire susceptible d'être subvertie par une révolution, d'être subvertie en régime aristocratique, oligarchique, démocratisable. Alors ici, les données empiriques sont procurées par la Grèce, par Rome et par les cités médiévales où on a tout ce dont on a besoin pour démontrer cette proposition. Et enfin, je crois qu'il y faut une combinaison subtile, donc difficile à repérer, de qualités psychiques et de vertus éthiques permettant de mettre en œuvre et d'effectuer par les acteurs sociaux les 3 définitions de la liberté. Être capable de choisir en refusant toute contrainte extérieure, mais le faire d'une manière autonome, délibérée, et surtout en ayant le sens du bien commun. Autrement dit, ces qualités permettent de concilier la divergence des intérêts particuliers et la convergence des intérêts communs. C'est extrêmement subtil, très difficile, ça ne se décrète pas, ça naît organiquement, si vous voulez, un certain nombre de contraintes. Alors, ces conditions ont été réunies en Europe. Comment le sait-on? Eh bien, l'histoire le révèle, et pour l'essentiel, une histoire qu'il faut prendre à partir du XIe siècle. Mais pour certaines contributions, il faut remonter beaucoup plus haut, à mon avis, au bronze moyen, c'est-à-dire à la mi-troisième millénaire avant notre ère, c'est-à-dire au moment de l'indo-européanisation de l'Europe. L'histoire révèle, en effet, je me contente de vous indiquer les correspondances, sur le point 1, transpolitie, eh bien, c'est le trait le plus remarquable de l'histoire européenne, à mon avis, son trait fondateur, à savoir qu'il n'y a jamais eu d'empire européen. au sens de empire étendu à l'ensemble du continent. L'Empire romain était centré sur la Méditerranée, il n'a occupé que la moitié. Charlemagne, ça a duré même pas une génération, et ça n'est qu'une toute partie. Donc, il n'y a jamais eu d'empire européen. C'est une exception tout à fait prodigieuse. Nous avons eu l'occasion de nous en occuper, monsieur le secrétaire perpétuel, lors de votre présidence. Sur le deuxième point, à la place d'empire se met en place une transpolitique que j'appelle oligopolaire, c'est-à-dire où 5 à 7 polities sont actives en même temps à chaque séquence du temps. Ce système rare et stable à long terme, son originalité ressort d'une comparaison avec l'Inde, où il n'y a pas d'empire non plus, où il a disparu très vite, mais où les polities sont d'une inconsistance perpétuelle, soumises à des mouvements de convection de la matière sociale. Sur le point 3, les centres autonomes de décision, il y a ce trait remarquable de l'Europe qu'on ne retrouve qu'au Japon, à savoir la persistance millénaire d'aristocratie au sens défini de lignages disposant de positions de pouvoir, prestige et richesse indépendantes du pouvoir politique, de paysannerie au sens de ménages paysans, entrepreneurs responsables de leur entreprise, aussi minuscule soit-elle, pas forcément propriétaire, mais responsable. Au Japon, ça n'apparaît que tardivement. Favorable au contre-pouvoir, qui a été encore renforcé par une autre originalité, à savoir l'émergence de bourgeoisie dans les cités médiévales. L'Europe s'est très distincte de tous les autres cas historiques, à l'exception du Japon, très curieusement, où on a un parallèle très troublant. Je pense personnellement qu'il n'y a aucune influence réciproque, s'ignorer totalement, mais je pense que le point d'origine est le même, à savoir les steppes eurasiennes, et donc les aristocraties chez des pasteurs. Sur le point 4, les hiérocraties issues de la restauration monarchique hors de la féodalité, sont tempérées efficacement par les élites nobiliaires et roturières. Et toute tentative du pouvoir royal pour imposer une hiérocratie absolue, alors vous me direz, Louis XIV a réussi. Non, c'est absolu en un sens très abusif, c'est très tempéré. Il ne peut pas faire grand-chose, le roi de France. Ont toujours échoué. Le cas le plus exemplaire est celui de l'Angleterre. Et enfin, sur le point 5, qui mériterait de non-développement, je pense pouvoir montrer ou suggérer que la plupart des types humains appropriés aux différents rôles sociaux en Europe incline aux qualités et aux vertus requises de quant à soi, de refus de toute subordination et en même temps de sens du bien commun et donc sens du service, si vous voulez. Et on peut le montrer pour d'innombrables rôles, pas seulement dans les élites, mais également au sein du peuple. Il faudrait, dans un dernier moment, étudier l'actualisation telle que révélée par l'histoire politique depuis 1564, pour prendre une date symbolique, c'est-à-dire la révolte des provinces unies contre l'Espagne, que je tiens pour le premier mouvement de ce qui deviendra la démocratisation ultime. Alors, cette actualisation s'opère comme il se doit, comme toutes les entreprises humaines dans toutes les sociétés et à toutes les époques, par 3 ensembles distincts de phénomènes. Les uns sont des cognitions, on pense à l'avance ce que l'on fait, ou on introduit du savoir dans ce que l'on fait, c'est quoi ? C'est la pensée juridique, c'est la philosophie politique, ce sont des idéologies, ce sont même les sciences de l'humain, qui contribuent, visible Montesquieu par exemple. Deuxièmement, par ce que j'appelle des factions, c'est-à-dire des matières informées ou des formes matérialisées, c'est-à-dire pour l'essentiel, puisqu'il s'agit de politique, des institutions et des organisations qui se mettent en place progressivement par essais et échecs. Et enfin et surtout, des actions, c'est-à-dire des conflits, des révoltes, des révolutions, des revendications, des contestations, bref, tout ce que l'on sait sur l'histoire politique européenne depuis environ 4 ou 5 siècles. Alors, une fois en place, la démocratie, donc ça a pris plusieurs siècles, même la mieux instituée, la mieux organisée et la mieux gérée par des politiciens et des citoyens parfaitement vertueux, ce qui évidemment ne se rencontre jamais, mais même, elle marche normalement mal. d'autant moins que toute démocratie représente un idéal qui n'est jamais atteint par aucune démocratie concrète. Et pourtant, elles sont toujours indéfiniment perfectibles. D'abord, je crois qu'il n'y a pas de démocratie à proprement parler, c'est un mot, si oui, une étiquette. Il n'y a que des démocratisations plus ou moins abouties, généralement moins que plus, d'une part, et d'autre part, les conflits, les révoltes, les réformes sont des indices de bonne santé démocratique et pas du tout des indices d'un effondrement prochain. Alors, je ne vous proposerai pas de conclusion, mais de passer aux travaux dirigés, de manière à vérifier la vérité de la thèse. Je voudrais tout de même prévenir une question probable. Et l'autocratie, qu'est-ce qu'elle est devenue dans tout ça? Parce que je n'ai parlé que de démocratie et de hiérocratie. Je peux répondre de manière très rapide. On note des épisodes tyranniques dans certaines hiérocraties, surtout dans la variante absolue, et à l'occasion de la sortie d'une hiérocratie tempérée. Dans les cités grecques, enfin, on a un cas parfait d'épisode tyrannique. La sortie de la Rome royale permet d'illustrer ce cas. Donc, il y a des épisodes tyranniques qui n'ont pas de conséquences à long terme, même si elles peuvent être très désagréables pour les contemporains. Je peux repérer, avec beaucoup de bonne volonté, des esquisses idéocratiques dans certains épisodes, par exemple Akhenaton ou Aménophis IV, on peut l'interpréter comme une utopie qui cherche à se réaliser par tous les moyens, mais enfin bon. Il y a un épisode malheureusement très très mal connu vers 250 à Pergame, l'épisode de la Cité du Soleil, le mouvement des hiéropolitains, où là on a tout de même quelque chose qui annonce enfin, notre époque contemporaine. Du côté chinois, peut-être l'usurpation de Wang Mang, je ne sais pas si je prononce bien, entre 29 et 23, il y a tout de même des éléments idéologiques forts. Mais ce sont des curiosités. Les empereurs iconoclastes à Byzance, bon, je ne pousserai pas cette thèse très loin. On note aussi dans le passé des transitions autoritaires, régimes autoritaires, le meilleur exemple étant les empereurs romains. Entre Auguste et Dioclétien, les empereurs ont eu un problème très réel de justification idéologique de leur pouvoir après un millénaire, pas tout à fait 750 ans, de régime mixte dans une cité. Et ils n'ont pas trouvé de solution. Elle est venue d'ailleurs, ça a été le christianisme, personne n'y avait pensé. Voilà, donc pour l'essentiel, l'autocratie n'a rencontré ses conditions de possibilité qu'avec la modernité, là où les aspirations à la démocratie n'ont pas rencontré ces conditions de possibilité. Ce sont des dérapages, des corruptions, des perversions qui peuvent être effrayantes, mais ça n'est pas dans le cours au très long terme de l'histoire politique de l'humanité. Je vous remercie de votre attention.
Vous venez d'entendre Jean Béchler, membre de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1999, dans la section « Morale et philosophie » qui ouvrait le lundi 11 janvier 2010 l'année académique dont le thème de travail proposé par le président Jean Ménard est « La démocratie ».